Sénéchal. J'ai réfuté totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cet échange d'un parole aux auditeurs. La loi cadre numéro 086-005 du 22 septembre 1986 a été modifiée au Parlement et promulguée par le chef de l'État au mois de février dernier. Cette loi apporte plusieurs innovations et l'une d'elles est contenue dans l'article 172 qui stipule que les établissements, les centres publics et privés agréés d'enseignement national peuvent créer et développer des activités d'autofinancement. Ces innovations arrivent alors que plusieurs observateurs dénoncent les suffisances du budget alloué au secteur de l'enseignement qui entraîne souvent la rareté et des fois l'absence des frais de fonctionnement. Que pensez-vous de ces innovations et quel est leur impact sur le fonctionnement des établissements d'enseignement national? 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Jir Lungembo assure la réalisation de cette émission mise en onde par Guy Manzangou. Pierrot et la Meji vous la présente sous la supervision de Ben Kabamba. Nous avons invité pour vous Jovin Moukadi, qui est conseiller chargé des coopérations internationales au ministère de l'EPSP. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent. Nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meji.
Monsieur Jovin Mouguette, bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot.
Merci d'avoir accepté l'invitation une fois de plus encore de Radio Capi pour parler de l'enseignement. Nous parlons aujourd'hui, la loi contient beaucoup d'innovations comme je venais de le dire tout à l'heure, mais nous avons ciblé dans cette émission d'aujourd'hui cette innovation concernant bien sûr les activités d'autofinancement au niveau des établissements d'enseignement national. Est-ce que c'était d'abord une nécessité de pouvoir créer cette disposition au niveau de la loi?
Je crois que cette disposition, merci Pierrot pour la parole, et je remercie également son Excellence Makher Mwangou, ministre de l'EPSP, qui nous a autorisé à prendre part à cette émission. L'autofinancement des écoles, en fait, par rapport à la nouvelle loi, ce n'est pas une innovation, parce que cette disposition a existé même dans l'ancienne loi de 1986, bien que, quoi qu'on le dise, cette loi n'a pas connu d'acte de sa mise en œuvre. En fait, c'est pas une innovation. C'est une disposition qui existe et nous avons déjà aussi, à l'heure actuelle, des écoles qui fonctionnent avec ce principe d'autofinancement. Et voilà ce que je peux dire de l'entrée de jeu.
Mais quand on dit créer et développer des activités d'autofinancement, parce qu'au niveau, on parle des dispositions réglementaires qui doivent compléter, n'est-ce pas, la mise en œuvre de cette disposition-là, et par rapport à l'expérience qui s'est fait sur terrain, ces activités d'autofinancement, en principe, on fait allusion à quelle activité? Les activités des commerces, les activités dans quel domaine, effectivement?
En fait, l'autofinancement des écoles, c'est surtout au niveau des écoles d'enseignement technique et de formation professionnelle. Il s'agit ici, dans le cadre des activités manuelles et de la pratique professionnelle, de faire en sorte que les élèves puissent travailler en ce qui concerne la pratique professionnelle ou pendant leur stage à côté des experts du métier qui leur apprennent directement en travaillant comment produire certaines spéculations. Je prendrai des écoles de formation technique pour la menuiserie par exemple. Il y a une formation théorique, il y a aussi une formation pratique. C'est lors de ces formations pratiques qui ne sont pas des travaux manuels mais plutôt des activités manuelles que les élèves sont en contact avec les outils avec accompagné ou supervisé par des menuisiers pratiquants qui vivent de ces métiers-là, qui leur apprennent comment ils doivent utiliser ces outils, comment ils doivent par exemple produire une chaise. C'est pendant ces travaux-là. Et il peut arriver que l'école reçoive une commande, par exemple de fabrication de chaises. Cette école s'autofinance avec ce travail-là, produit par les élèves.
Mais c'est pas dans le sens où par exemple aujourd'hui l'école dit voilà, nous pouvons mettre un peu d'argent à côté, ouvrir une boutique, créer une activité, un restaurant par exemple attaché à l'école où la population vient acheter et cet argent permet à l'école de pouvoir financer ces activités.
Je crois que c'est ne pas cela. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'en fait la loi a été promulguée. Nous n'allons pas faire comme en 1986, la loi est promulguée et elle n'est plus, elle n'a pas de mesures d'application. Il y a déjà une commission qui a été créée sur demande de son Excellence Monsieur le Ministre Makere Mwangu et l'autorisation de son Excellence Monsieur Matata Ponyo, Premier Ministre. Une commission a été mise en place pour examiner la loi, extirper tout ce qui est mesures réglementaires qui devra permettre la mise en œuvre de la loi. Donc, je ne veux pas anticiper sur ce qui va être fait, mais sur la base de l'expérience, nous savons que certaines activités manuelles, c'est-à-dire qui participent à la pratique professionnelle, pendant les heures de cours, de pratique, je le dis bien, permettent à ce que les élèves produisent certains produits qui doivent être vendus aux clients qu'ils veulent bien acquérir ces spéculations-là.
Mais c'est ça, c'est dans le principe, la loi.
Donc, ce n'est pas qu'on puisse développer des activités commerciales, mais c'est dans le cadre de l'apprentissage des élèves. Un élève qui fait, par exemple, la mécanique auto, il a en face de lui un moteur, il a en face de lui une boîte de vitesse, il y a un atelier avec des outils performants qui permettent à cet élève-là d'abord de connaître c'est quoi le moteur et ensuite de savoir comment le réparer. Et pour cela, ils sont encadrés par des contremaîtres, par des spécialistes dans le domaine de la menuiserie, de l'électricité. Mais cela peut permettre, compte tenu du fait que certaines écoles sont suffisamment équipées, de produire suffisamment d'éléments qui peuvent être vendus au public pour autofinancer l'école. En fait, l'autofinancement permet, par exemple, de réduire les frais de participation des parents en ce qui concerne les consommables. Vous savez qu'un élève qui utilise le fer, la soudure, par exemple, il y a des consommables appropriés. Il faut les acquérir. Et c'est ce qui fait, par exemple, que l'enseignement technique et la formation professionnelle coûte cher et qu'on exige aux parents apporter une étoffe, que l'élève puisse demander aux parents une étoffe, c'est pas moi, de frais pour acheter des consommables. Et l'école, à partir du moment où elle est capable de produire certains éléments qui peuvent être vendus, ça permet à l'école, cela permet à l'école de s'autofinancer, d'acquérir certains intrants, certains consommables qui servent à la pratique professionnelle.
Voilà. Mais je crois à côté de ça, c'est important aussi qu'on dise, il faudrait alors permettre à ces écoles techniques. On sait que la plupart de nos écoles techniques connaissent aussi assez des difficultés, que ce soit en province, on sait. Et là, il faudrait que le pouvoir public mette aussi des moyens pour ces écoles, qu'ils aient des laboratoires, qu'ils aient des ateliers qui leur permettent vraiment de lier la théorie à la pratique. C'est que à côté de cette disposition, il faudrait accompagner avec tous ces outils, si possible, que les écoles peuvent acquérir pour leur permettre effectivement de pouvoir concrétiser cela.
Oui, Monsieur Pierrot, vous avez totalement raison. Comme je l'ai dit, il y a des écoles qui sont suffisamment équipées. Et actuellement, d'ailleurs, ceux qui suivent l'actualité savent qu'avec l'appui de la première dame, Madame Olive Lembe, l'EPSP vient d'acquérir 5 écoles techniques dans la province de Kinshasa, de Bandundu, de l'Équateur, de Kassai Occidental, qui sont suffisamment équipés pour justement assurer ces partenariats public-privé. Mmh. Parce que, comme vous le savez, la gestion du système scolaire en RDC, c'est un système partenarial. Quand je parle des privés qui viennent appuyer, aider les élèves à apprendre, c'est avec des outils qu'on trouve au sein de l'école.
Mmh.
Vous savez, par exemple, que l'école comme Don Bosco ou l'Institut technique de Ngaliema, ce sont des écoles qui ont été équipées par le gouvernement. Mmh. Et maintenant que nous avons entamé dans le cadre des réformes qui sont mises en œuvre par rapport au plan intérimaire de l'éducation, nous sommes en train de transformer certaines écoles d'enseignement général et normal en écoles d'enseignement technique et de formation professionnelle. Nécessairement, dans les jours qui suivent, on devra développer des écoles qui sont suffisamment équipées en outils.
Et comme ça, ils peuvent créer ces activités d'autofinancement. Voilà. Merci. On va revenir à vous, le temps d'écouter aussi les auditeurs. Hein. Nous avons Maître Gaston ici à Kinshasa, la Guilo à Kalemi dans le Katanga et Géry dans le Bandundu. Nous parlons de cette disposition de la loi cadre de l'enseignement national qui supplie que les établissements, les centres publics et privés agréés d'enseignement national peuvent créer et développer des activités d'autofinancement. Vous avez expliqué, a suivi des explications avec notre invité. Pour nous, c'est comment ces activités peuvent contribuer à développer ces établissements, peuvent résoudre le problème des gestions, le problème de frais qui se posent dans ces établissements. Qu'est-ce qui doit être fait? 081 890 49 69, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs.
Maître Gaston, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Merci, à vous aussi, bonjour.
Et d'abord, avant peut-être que vous puissiez proposer des pistes, des solutions, que pensez-vous d'abord de ce que la loi prévoit? Notre invité l'a dit, hein, c'est pas nouveau, ça existait déjà dans l'ancienne loi, mais plutôt que des fois, on n'avait pas suffisamment vulgarisé la loi, ni l'accompagner sur terrain. Que pensez-vous d'abord de cette disposition? Et après, on pourra voir pour vous ce qui doit être fait pour que cela puisse avoir de l'impact sur le fonctionnement de nos établissements.
Interpréter à ma manière cette disposition, mais aussi dire un mot par rapport à l'interprétation qu'a donnée notre invité. Je pense que on ne pouvait pas restreindre la loi. La loi est claire, la loi dure. Ce sont les établissements publics qui peuvent créer une activité connexe, à mon avis, une activité commerciale pour s'autofinancer. Et c'est là où que vous aviez même posé la question de savoir quelle peut être une des activités ciblées, parce que la loi n'est pas claire là-dessus. Mais je vois l'invité à plus, c'est là où qu'il a restreint, à mon avis, la loi, il dit c'est ça. Mais moi, je pense que même une activité commerciale, je vais donner un exemple. Prenez que non, une activité commerciale qui va faire que on puisse, avec ce qu'on produit, équiper l'école, pour que l'enseignement puisse, disons, se donner dans de bonnes conditions. Vous pouvez, à mon avis, actuellement vendre, créer un cantine, disons, vendre tout ce qui est nécessaire, hein, tout ce qui pouvait accompagner l'élève, les outils sur place là-bas, de telle sorte que l'élève n'aura pas tendance à aller y acheter tout cela ailleurs. Même la restauration aussi. Vous savez que non, aujourd'hui, il y a des privés qui s'en préoccupent tout autour de nos écoles, vous verrez. Il y a des gens qui exercent toutes les activités comme donc. Si une école s'approprie toutes ces activités-là, ça peut faire que non, à son niveau, elle produit et puis elle pouvait s'autofinancer. Mais je pense que le problème, c'est au niveau de prendre d'abord cette initiative. Là, vous savez qu'actuellement, il y a beaucoup de fonds qui entrent dans nos écoles, mais arrivés sur place, vous allez voir, vous vous demandez où se trouve, où à quoi, même les bâtiments, on réfectionne, on ne sait pas à quoi sert, hein, quoi sert cet argent-là. Donc, il y a des universités, ça, des écoles, jadis, ça avait déjà emboîter les pas sur ces chemins-là, ils avaient aussi compris que non, c'était une bonne chose pour les écoles actuellement de comprendre que ça, elles, ils peuvent développer les activités connexes qui ne sont pas en soi les activités des établissements publics qui sont là pour rendre service. Mais, voilà, c'est dans ce sens-là. Mais j'allais dire aussi une chose sur le plan de la qualité de l'enseignement. Vous savez que chez nous, en quelque sorte, sur le plan des équipements, arrivé dans quelques écoles, ils sont équipés, hein. Il y a des matériels didactiques, il y a tout, il y a les enseignants de qualité, il y a même des bâtiments voulus, mais les personnes qui sont censées recevoir, recevoir la formation n'ont pas, à mon avis, ne sont pas nombrées, qui s'appliquent. C'est sur base de ça que vous verrez que l'enseignement se traduit par une grande faiblesse auprès des élèves. Pourquoi? Parce que les élèves n'ont pas de méthodes qui peuvent faire qu'ils puissent se former. Ils savent pas de méthodes. Vous voyez que non, ils donnent plus d'importance à d'autres choses que, parce qu'imaginez un enfant que vous dites bourrique à l'école, mais il a la capacité de capter un message là, par exemple, qui n'a même pas l'importance. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Il te dit tout cela. Mais qu'est-ce que l'enseignant dit? On n'arrive pas à capter. Qu'est-ce que le musicien dit? Oui, il te raconte. Donc, c'est une question aussi de préférence. Je pense, oui.
Voilà, mais Maître Gaston, on vous a bien suivi, merci beaucoup. Pour vous, vous pensez que notre invité dans son argumentaire, vous pensez qu'il est en train de restreindre la loi pour vous. D'ailleurs, je rappelle encore, et la loi à la disposition, l'article 172 dit ceci, hein, pour peut-être vous permettre de pouvoir comprendre,
ouais,
que ces activités sont déterminées par voie réglementaire. C'est qu'il faut attendre d'abord qu'au niveau des mesures d'application, qu'on sache quelles sont vraiment les activités qui sont concernées. Mais
bon,
pour
je vais vous donner un exemple. Quand on a parlé des établissements publics, moi j'ai étudié dans une université de Kikwit, là, l'université de Bandundu d'extension de Kikwit. Là, en quelque sorte, c'est là où que j'ai pris cet exemple. Cette université avait une activité commerciale qu'on exerçait pour les comptes de l'université. Donc nous, lorsqu'on on voulait aller boire, on partait là-bas, vous buvez. Lorsque vous voulez aller acheter des papiers, vous partez là-bas. Lorsque vous voulez manger, vous... Donc, en quelque sorte, c'est la politique et je pense que ça pouvait aussi être appliqué partout. C'est un exemple concret.
Ah, voilà, merci. Oui. Merci beaucoup. Mais c'est pas seulement les établissements publics, hein. La loi parle des établissements publics et privés agréés. Mais vous souhaitez qu'on puisse étendre, hein, dans les mesures d'application qui pourront être prises, hein, que ça ne soit pas seulement, par exemple, pour les écoles techniques avec les activités manuelles, mais on peut étendre cela à d'autres activités.
Non, ce n'est même pas ce qu'il a dit.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Gaston, on pourra revenir, notre invité pourra bien spécifier ce qu'il a donné comme explication au début, mais dis-moi, on retient que votre souci c'est de pouvoir étendre cela à d'autres activités, pas seulement ce qui est lié à la formation des élèves. Merci beaucoup. La Guillois, vous êtes à Académie dans la province du Katanga, bonjour.
Bonjour M. Perrault, bonjour à l'invité et aussi à Jouet qui est à la coordination de cette émission.
Merci, vous avez suivi l'introduction avec notre invité, qui d'abord c'est que vous pouvez dans cette émission énoncer comme mesure pour permettre à ce que cette disposition de la loi puisse profiter vraiment aux écoles, le fait de pouvoir créer et développer les activités d'autofinancement.
Merci M. Perrault pour la parole. Je pense que la prise de l'autofinancement dans les écoles n'est pas une innovation, comme notre invité l'a dit, car l'ancienne loi de 1996 permettait aux écoles la prise de l'autofinancement. Bien sûr, on peut mener plusieurs innovations dans le ministère de l'éducation. Si les agents ne sont pas payés, M. Perrault, cette prise n'aura jamais lieu. C'est ainsi que, à mon humble avis, je me pose des questions. Comment se fait-il dans une école où on voit 10 enseignants, un préfet, mais ils ont le numéro matricule, mais ces gens ne touchent pas leur salaire. Comment peut-on trouver le financement dans cette école? Pourquoi, M. Giraud et M. Giraud, pour mieux mener la campagne pour que cette loi ait de bons fruits, il faudrait d'abord, parce que moi je suis enseignant, c'est nous qui vivons, M. Giraud, c'est nous qui vivons les scènes. Je suis enseignant de l'école publique ici à Calédie. Nous avons déjà des numéros matricules il y a de cela une année. Maintenant, quand vous voulez dire qui est l'autoprise en charge, au moment que nous...
La Guiloa, peut-être, il faudrait peut-être circoncire le cadre. Nous ne faisons pas les débats aujourd'hui sur ce qu'il faut faire pour payer les enseignants. J'ai dit bien que la loi, nous l'avons commencé, c'est une série des émissions que nous avons commencé. Il y a beaucoup de choses dans la loi. Nous parlons de l'autofinancement dans votre école, par exemple, selon l'explication de notre invité. Alors, pour vous, vous pensez qu'il est difficile qu'une école organise l'autofinancement si les enseignants ne sont pas assez mieux payés, non, ne touchent pas leur salaire. Pour vous, c'est difficile qu'on arrive à organiser une activité d'autofinancement.
Oui, c'est difficile, mais il faudrait qu'il y ait aussi seulement la conscience envers les dirigeants de cette école. S'il y a la conscience vraiment, tout ira bien, il n'y aura pas de problème, c'est pourquoi. Et non parler seulement des écoles techniques, mais il faudrait aussi parler des écoles littéraires comme l'état des écoles pédagogiques. Et il faut aussi les encourager pour que ces écoles aussi puissent aussi arriver à mener l'entreprise en charge. Voilà ce que je voulais contribuer.
Merci. Merci, la Guiloa. N'est pas seulement se limiter aux écoles techniques, même les écoles d'autres sections, ils peuvent aussi, on peut les encourager à pouvoir créer des activités d'autofinancement. Merci beaucoup. Géry, vous êtes à Mandoundouville. Bonjour. Géry, bonjour. Là, on a des petits soucis des lignes avec Géry qui nous a appelé de Bandoundou. Nous revenons à vous, Jovin Moukadi. C'est important aussi de pouvoir revenir sur les lois. Vous savez, souvent, on a ce problème qu'il y a des lois peut-être que nous gardons dans nos bureaux, les intellectuels, mais la population n'est pas assez informée. Mais c'est important aussi de revenir, d'expliquer à la population les contenus de cette loi. On sait que c'est beaucoup d'articles, beaucoup de choses, mais il faudrait aussi avoir le temps de pouvoir expliquer à la population pour qu'ils comprennent effectivement. On comprend déjà avec la première émission, c'est sur ça, on comprend déjà les difficultés. Alors, est-ce que vous avez, comme l'a dit Maître Gaston, que pour vous, il sent que vous voulez restreindre la loi, que ce soit seulement déterminé, mais il faut laisser la liberté aux écoles de pouvoir étendre vraiment les activités connexes d'autofinancement?
Je crois que pour répondre à Maître Gaston, j'aimerais lui rappeler l'article 28 qui dit exactement ceci. Dans les cas d'émission qui leur sont dévolues par la présente loi, les écoles secondaires techniques et professionnelles, les instituts supérieurs, les écoles supérieures et les universités peuvent assurer par voie des conventions des prestations de services à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités académiques ou scolaires en vue de leur autofinancement. Je crois que là aussi, il y a une précision. Et comme je l'ai dit, nous allons attendre
les mesures
d'application, mais moi, ce que je privilégie, ou ce que la loi privilégie, c'est plutôt les niveaux d'apprentissage des élèves. Les niveaux d'apprentissage par rapport aux options, par rapport aux orientations que les enfants ont choisies. Un enfant qui est venu pour apprendre, par exemple, les métiers de menuisier, vous n'allez pas le mettre dans une activité commerciale de vente, je ne sais pas moi, de cahiers. Ça, c'est une autre personne qui vient, qui vend pour le compte de l'école. Ça, évidemment, ça serait examiné au moment. Mais nous, c'est le souci. Il a parlé de la faiblesse de la qualité.
De la qualité, oui.
Tout justement, tout autour de cette faiblesse de la qualité, il y a plusieurs éléments. Ils ont évoqué la motivation des enseignants, c'est exact. Mais en ce qui concerne l'autofinancement, il faut que cela aide l'enfant déjà à produire, à mieux produire, mais cela dans le cadre de la pratique professionnelle, de la pratique scolaire. Voilà un peu ce que nous voulons, ce que la loi voudrait stimuler ici, ce sont les apprentissages. Parce qu'on l'a dit, il l'a souligné, nous avons certaines écoles techniques et de formation professionnelle qui n'ont pas les équipements nécessaires. Mais les écoles où il y a des ateliers, où il y a des laboratoires, il faut que les enfants qui quittent ces écoles-là après avoir terminé leur formation arrivent avec des compétences techniques et professionnelles. Quand on dit, voilà, tel monsieur a terminé à l'Institut Don Bosco à Massina, mais quand il vous fait une chaise, c'est une chaise. Ce n'est pas une chaise de loin, vous observez, c'est une chaise, mais quand vous vous approchez, tel que le problème que nous connaissons dans notre pays, a un problème réel de finissage. On vous fait une chaise, c'est une chaise, mais en réalité, elle n'est pas bien finie, elle n'est pas faite suivant les règles de l'art, comme le disent les gens. Voilà un peu.
Il y a notre ami Laguilois qui s'inquiète, qui dit, mais bon, les écoles peuvent organiser des actions d'autofinancement, mais si les conditions de l'enseignant par rapport à aux responsabilités de l'État ne le permettent pas, ça sera difficile. Peut-être que la peur, l'hésitation, c'est que ces activités, ces travails des élèves qui rencontrent des enseignants en difficulté, ça peut déstabiliser d'une manière ou d'une autre cette organisation, et pourtant ce sont des questionnements de la peur, bien sûr, et d'incertitude.
Je crois que nous l'avons toujours dit, le problème de l'éducation doit être pris de manière holistique. C'est-à-dire que tout doit être mis ensemble. Mais aujourd'hui nous parlons de l'autofinancement, examinons cette question. Il a raison de dire que nous devons prendre cette question de manière holistique. Mais moi je crois que si par exemple, l'école a des enseignants qui ne sont pas payés et qui sont capables, avec leurs élèves, de s'autofinancer. Cela peut, en attendant que la paye arrive, assouvir tant soit peu le problème de motivation des enseignants. Donc, je crois qu'il n'y a pas de lien direct entre l'autofinancement et le paiement des enseignants.
Mais il y a notre ami tout à l'heure, Maître Gaston, qui a évoqué aussi le problème de problèmes de gestion par rapport à ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans le programme intérimaire, je crois qu'on en avait parlé avec Monsieur le Ministre une fois, mais est-ce qu'il y a encore ce programme de renforcement des capacités de responsables des établissements par rapport à la gestion, pour permettre à ce que si jamais une école qui a de moyens, qui a un laboratoire, un atelier, la population recourt pour des services, et qu'on soit en mesure de pouvoir bien gérer les revenus de cette activité, et permettre à ce que cela profite vraiment à l'établissement.
Je l'ai dit au début, la gestion du système scolaire en RDC est basée sur le principe de partenariat. La gestion d'une école signifie, elle se fait à trois niveaux, au niveau pédagogique, au niveau administratif et au niveau financier. Et nous disons, pour toutes ces matières, tous les partenaires éducatifs qui font partie d'une communauté scolaire, c'est-à-dire les parents, les conseils de gestion, les enseignants, et même aujourd'hui nous avons le gouvernement des élèves, ils doivent avoir des rencontres qui permettent d'assurer une gestion efficace de l'école. Les comités des parents existent, ils doivent être fonctionnels et ils ont un droit de regard sur la gestion financière, pédagogique et administrative de l'école. Et cela permet d'améliorer la gestion de l'école. Même ce que nous disons d'autofinancement des écoles, il y a des écoles qui regroupent les parents et qui voient, ils peuvent ensemble se réunir et dire quelle action. Même si c'est pas, il a dit que on peut l'étendre à toutes les écoles, c'est possible. C'est possible qu'on puisse étendre cela à toutes les écoles. Mais le souci d'abord, c'est d'aller vers l'amélioration de la qualité des apprentissages au niveau des apprenants. On peut, par exemple, il y a des écoles qui ont des espaces où on peut construire un bâtiment, comme on le voit aujourd'hui dans certaines paroisses. On peut demander aux parents qui ont des moyens, parce que les écoles aussi, il faut les catégoriser. Il y a des écoles qui ont des moyens, ou des parents ont des moyens, mais d'autres n'en ont pas. Ces parents peuvent, comme on le voit dans les paroisses, organiser par exemple des salles polyvalentes qui peuvent servir aux fêtes de mariage, à des concours, ou je ne sais pas. Ça c'est bon, je suis en train de faire une réflexion à haute voix. Ça permettra peut-être de financer l'école. Mais il faut que
tout cela soit discuté
au niveau de tous les partenaires éducatifs, parce que comme nous le disons, l'école, ce n'est pas l'affaire. Nous, nous donnons la formation des gestions de l'école aux chefs d'établissement. Ils suivent des formations d'année en année qui leur permettent justement d'assurer les trois fonctions que j'ai citées, pédagogiques, administratives et financières. Mais il faut que tout le monde se mette autour de l'école pour qu'ensemble qu'on puisse dire que notre école, nous la portons et nous voulons que nos enfants atteignent tel niveau. Et c'est, moi je crois qu'il n'y a pas d'autre miracle à faire. Et là j'aimerais dire, Monsieur Pierrot, que je reviens de Dakar il y a exactement une semaine, où nous avons participé à la préparation de la ministérielle de la Confémène. la conférence qui réunit les ministres de l'éducation des pays qui ont le français en commun. Mmh. Et l'une des résolutions que nous allons soumettre aux ministres, justement, c'est de leur demander de faire de l'école le lieu où toutes les réformes possibles pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement doivent se faire. Ce n'est pas l'affaire du chef d'établissement, ce n'est pas l'affaire du ministre, c'est l'affaire de l'entité, parce que chaque école a une identité. Mmh. Une identité liée aux élèves qui y sont, liée à son adresse, liée aux enseignants qui s'y trouvent. Nous n'avons pas deux écoles comparables. Mais si tout le monde se met autour d'une table, tous les partenaires éducatifs d'une école, qu'ils fassent de cette école vraiment leur... comme on dit, qu'ils portent cette école, nous pensons que tous ces problèmes d'autofinancement, les problèmes de qualité, peuvent trouver des solutions au sein même de l'école, plutôt que demander toujours au gouvernement d'intervenir.
On va revenir à vous, Bruno Etakananga, Sélé Etalikassi, Étienne Aguéménan. Je rappelle encore que l'article 172 de la loi cadre de l'enseignement portant organisation de l'enseignement national prévoit ceci, hein, les établissements, les centres publics et privés agréés d'enseignement national peuvent créer et développer des activités d'autofinancement. Que pensez-vous de cette disposition? Quel pourrait être son impact dans le fonctionnement des établissements d'enseignement national? C'est la question autour de notre partage et nous en parlons avec Jovin Moukadi qui est le conseiller chargé de la coopération internationale au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Et vous, auditeurs, parents, vous tous qui êtes concernés par ce débat, vous pouvez également intervenir en nous appelant au 081-890-4969.
Parole aux auditeurs.
Bruno, vous nous appelez des Kananga au Kasaï occidental, bonjour.
Oui, bonjour Pierrot et la Mingi, bonjour à ces auditeurs de Radio Kapi.
On vous écoute, vous avez suivi les précisions avec notre invité. Quel est votre point de vue par rapport à l'organisation de ces activités d'autofinancement?
Oui, tout d'abord je remercie d'abord le chef de l'État pour pousser cet article de l'autofinancement qui est pris dans la Constitution. Moi je voulais un peu éclaircir ceci. En dehors de l'autofinancement de construction de bâtiments publics, des institutions éducatives et consorts, il serait aussi mieux d'en prendre compte au paiement des enseignants. Parce que si un enseignant qui n'a pas mangé ou qui vit chez lui en famille, il a laissé sa famille, ses enfants dans de mauvaises conditions, là, il ne sera pas bien donné cours. Donc, il serait mieux que le chef de l'État et l'organisation qui est en charge de cela puisse prendre aussi compte des paiements des enseignants. Cela pourra être un tout petit peu mieux pour bien avancer avec l'éducation en général et en particulier.
Merci beaucoup Bruno. Vous avez rejoint la Guillois et notre invité qui a dit au-delà et à côté de l'organisation de l'autofinancement, il faudrait aussi penser à améliorer les conditions de vie des enseignants. C'est un volet aussi de plusieurs de nos débats sur Radio Okapi et surtout dans Parole aux auditeurs. Merci beaucoup Bruno. C'est Léo, vous êtes à Likassi dans la province du Katanga. Bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot.
On vous écoute c'est Léo.
Je voulais saluer tout d'abord tous les auditeurs et l'invité pour ses interventions. Je voulais aussi saluer la disposition de cet article, mais je voulais souligner quelque chose.
Allez-y.
Dans ce pays, nous avons beaucoup de lois. Donc on fait des innovations en innovation des lois et des lois. Mais moi, je voulais souligner sur le fait que nous avons un problème d'application de ces lois. Si on pouvait tenir compte de ça, pour que chaque fois qu'on a une loi, qu'on fasse aussi une suivi pour l'application de ce loi. Alors pour ce faire, moi je pense mieux de faire toutes ces innovations, mais je crois aussi qu'il est mieux de réformer l'homme, les chefs d'établissement, dans cette nouvelle vision, dans cette nouvelle façon de voir les choses. Tout ça parce que c'est l'homme qui est le moteur du développement. Donc j'ai parlé ici des renforcements des capacités de l'homme. Mais la deuxième des choses, je voulais aussi souligner, nous connaissons tous le système dans lequel nous évoluons dans ce pays. J'ai craint que partant par cette innovation, que les chefs d'établissement trouvent une occasion de s'enrichir. Parce que chaque fois qu'on créera des activités d'autofinancement, ça fera que les chefs d'établissement commenceront à s'enrichir au détriment même de ces établissements-là. Alors moi, je voulais si on pouvait aussi faire, on pouvait peut-être créer dans chaque district, dans chaque ville, qu'on crée un comité de suivi. Ce comité aura la charge d'identifier d'abord les écoles qui sont susceptibles de créer des activités d'autofinancement. Et ce comité aussi aidera à faire la gestion de ce fonds, parce que nous risquons de faire enrichir certaines personnes au détriment même des écoles. Parce que nous tous, nous connaissons le pays dans lequel nous sommes en train d'évoluer. Alors voilà un peu ma contribution par rapport à ce sujet d'aujourd'hui.
Merci beaucoup, Célé, c'est important. Mais la peur que vous avez, c'est de voir ces initiatives profiter seulement aux chefs d'établissement de s'enrichir d'une manière illicite. Et vous proposez qu'il y ait des comités d'identification d'abord pour savoir quelles sont les écoles qui sont capables d'organiser ces activités d'autofinancement et pouvoir aussi avoir des comités de contrôle pour éviter que les fonds générés par ces activités ne puissent enrichir le chef d'établissement. C'est ça votre peur. Merci beaucoup, Célé, de nous avoir appelé délicatie dans le Katanga. Étienne, vous êtes à Guémena dans la province de l'Équateur. Bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kassi et bonjour à l'invité.
Vous avez suivi hein, notre ami Célé Delicacy qui a peur. Pour lui, il pense qu'il faudrait un contrôle pour éviter que les fonds générés par ces activités d'autofinancement au niveau des écoles ne puissent profiter aux chefs d'établissement qu'à l'établissement. Alors pour y arriver, qu'est-ce qui doit être fait pour que cela bénéficie vraiment à l'établissement Étienne?
Ok, merci Monsieur Pierrot. Avant d'en arriver là, je voudrais d'abord remercier et féliciter son Excellence Monsieur Makaire Mwangu, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel, et tout son cabinet pour les soucis majeurs qu'il a pour relever les défis quant à l'éducation. Monsieur Pierrot, vous savez, aucun développement ne peut être effectif sans l'enseignement. C'est pour dire que l'enseignement constitue donc les moteurs du développement. À ce qui concerne vraiment le sujet du jour, je suis très content et j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le conseiller du ministre qui est avec vous au plateau. Vous savez, comme a dit mon prédécesseur là, c'est vrai, tout ce qui se fait là, oui, la crainte c'est que les innovations peuvent parfois profiter qu'au chef d'établissement. Mais le vrai problème c'est quoi? Aujourd'hui, toutes les innovations que la République démocratique du Congo est en train de mettre en pratique, c'est bon et c'est bien, mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut chercher hein, à capitaliser les acquis, la finalité même de toutes ces innovations. On a innové pour quelles raisons et pour quelles finalités? Je pense que ce qui permettrait, nous savons qu'aujourd'hui, au Congo, on est en train plus de soutenir ce que nous appelons l'enseignement technique et professionnelle. C'est bien. Parce que c'est ça vraiment, ce sont ces options techniques-là qui aideront à l'épanouissement du Congo. Mais parce que j'ai suivi l'exemple donné par l'invité, les options techniques, entre autres la menuiserie, la maçonnerie et tant d'autres là. Mais il y a d'abord les frais sont fixés par le législateur lui-même. Maintenant, ces réformes, c'est bon. Mais moi, je pense que pour que cela soit effectif, ces réformes-là, d'abord, qu'on puisse d'abord subventionner ces écoles techniques, envoyer un petit moyen à ces écoles-là, ça permettra à ce qu'on puisse, quand on est dans la maçonnerie, dans la menuiserie, on s'achète les planches, et avec ces moyens-là, ça constitue un départ. Donc, ils peuvent se construire, fabriquer des chaises, des tables, on va vendre et cela va construire un peu de revenus pour l'école. Monsieur Pierrot, je voudrais vous donner un exemple concret. À là où je vous parle, je prends part à la clôture même des assises de la mini-promo intersectorielle de la sous-division de l'EPSP Guémena 1, sur place à Guémena. Et c'est l'une des recommandations même que les participants ont donné. Parce que, oui, les réformes, oui. D'ailleurs, on a parlé beaucoup d'innovation. Actuellement, par exemple, quand nous prenons les cours précédents, à ce qui concerne les cours de langue, les français par exemple, il y a beaucoup d'innovations où le professeur de français doit tenir une fiche pédagogique au lieu de fiche de préparation jadis tenue par lui. Donc, ben, toutes ces innovations-là doivent avoir aussi des mesures d'accompagnement concrètes. Ce sont ces mesures-là qui vont fixer comment l'application de ces mesures.
Voilà, si on, si on vous a bien suivi, si on vous a bien suivi, Étienne, oui, oui.
Je veux que vraiment la mise
voilà. Merci, merci, merci beaucoup, Étienne. Si on vous a bien suivi, je retiens trois choses. D'abord, vous avez souhaité qu'on puisse capitaliser les acquis, hein, des innovations. Chaque fois quand il y a une loi, oui. Quand il y a de nouvelles mesures, il faut capitaliser cela pour qu'on arrive à quand même à atteindre les objectifs pour lesquels la disposition se trouve dans la loi. Mais à côté de tout ça, vous avez insisté sur le fait que ces écoles doivent avoir les fonds de démarrage de ces activités, ces écoles techniques, que ce soit pour la menuiserie et d'autres, ils doivent avoir les fonds de démarrage qui doivent provenir de l'État. Et après, ils pourront travailler avec ces fonds-là pour pouvoir développer ces activités. Et la troisième chose que je retiens, c'est par rapport à la mini des promos scolaires dans à Guémena, là où vous êtes, c'est l'une des recommandations. Vous avez beaucoup insisté sur soi. Alors, ces trois choses peuvent faire à ce que, c'est la mise en pratique, ça va permettre à ce que cette disposition puisse vraiment profiter aux écoles et permettre leur développement. Merci beaucoup, Étienne, de nous avoir appelé de Guémena, dans la province de l'Équateur. Je vois, Moukadi, vous avez suivi les uns les autres. Hein. C'est vrai qu'on est très inquiets. Les gens disent qu'on a beaucoup de lois, on a beaucoup d'innovations, mais c'est fait un problème d'applicabilité sur terrain et les problèmes aussi des suivis. C'est ce qu'a souhaité sceller des délicaties qu'on puisse permettre à ce que le fonds ou soit ces activités ne profitent pas aux individus. Vous avez déjà évoqué la formation des chefs d'établissement et tous ceux qui sont impliqués dans la gestion des écoles. Mais au niveau aussi de la loi, vous avez dit, il ne faudrait pas que cette loi puisse souffrir de ce qui s'est passé depuis la loi de 86. Mais je crois bien, vous, au niveau du ministère, pour permettre à ce que la loi pénètre d'abord à la population, que tous les opérateurs qui sont concernés dans les partenaires, disons, concernés dans l'enseignement, puissent être informés d'abord de la loi et voir comment aider cela à être à appliquer. Y a-t-il des stratégie au niveau du ministère par rapport à ça, au contenu de la loi, sa vulgarisation et permettre à ce que ça soit compris et comme ça les gens pourront travailler en fonction de cette loi-là.
Merci Monsieur Pierrot. Je remercie également Bruno, Monsieur Célé et Étienne qui ont appelé. En fait, j'aimerais revenir sur le paiement des enseignants. Je crois que le paiement des enseignants c'est un volet important dans notre système éducatif, vu ce que nous avons connu. Je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie que depuis un certain temps, depuis plus de 20 ans, depuis l'époque de la conférence nationale souveraine, l'État s'était pratiquement désengagé de l'enseignement. Aujourd'hui, l'État revient et je crois que grâce à la priorité que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a accordée à l'éducation, à chaque fois que nous avons connu un taux de croissance positif tel que nous le connaissons aujourd'hui, depuis 2009, aujourd'hui il y a un accroissement de la part du budget alloué au secteur de l'éducation. Et à chaque fois qu'il y a des augmentations, nous sommes en train d'apurer cette ardoise des enseignants qui sont impayés. Cette année également, ce travail sera fait de sorte que des enseignants qui sont impayés le soient. Mais évidemment, il faut reconnaître que la mobilisation de ressources budgétaires ne permet pas à ce que les 200 000 enseignants qui sont impayés aujourd'hui le soient en une année. Voilà ce que je voulais préciser. Ensuite, en ce qui concerne l'application de la loi, l'application de la loi, Monsieur Perrot, exige d'abord que la loi soit vulgarisée. On va vulgariser la loi et au même moment, il faudra qu'on s'assure que les mesures réglementaires sont prises pour que cette loi puisse être exécutée. Le comité de suivi, je crois que ça ne sert à rien qu'on continue à créer des structures qui elles-mêmes vont souffrir de manque de moyens. Mais ce qui est important à retenir ici, c'est que les mêmes personnes, les structures de l'État qui existent, comme à l'EPSE, nous avons aujourd'hui 30 provinces éducationnelles, plus de 250 sous-divisions, cela permet au même moment de suivre. Mais comme je l'ai dit, tout se passe au niveau de l'école. Je crois que l'enseignement n'est même pas en dehors de l'école, où nous retrouvons l'enseignant qui est la pièce maîtresse, les élèves, mais les parents aussi font partie de l'école. Les partenaires éducatifs, partenaires privés font aussi partie de l'école. Tout le suivi en ce qui concerne la crainte de monsieur Célé oui. pour un enrichissement illicite des chefs d'établissement, je crois que cela ne poserait pas de problème si tout le monde s'impliquait dans la gestion de l'école. Savoir qu'est-ce qui se passe à l'école sur le plan financier. Nous avons un instrument qui permet à ce qu'on ait de l'argent. On peut savoir ça produit combien par mois, par exemple, et que faire de cet argent-là. Voilà, cela peut permettre aussi d'améliorer l'accès des enfants qui n'ont pas les moyens. Ça peut aussi permettre d'améliorer la qualité.
Et Célé a évoqué aussi les cas d'identification des écoles. Pour lui, il pense qu'il faut identifier les écoles qui sont à même d'organiser ces activités d'autofinancement.
Je crois que les écoles sont connues. J'ai donné l'exemple de quelques écoles qui produisent des banques que l'État achète pour d'autres écoles. Les écoles sont connues, les écoles sont bien identifiées et le travail dont j'ai parlé ici, qui est en train d'être fait en ce qui concerne la transformation de certaines écoles d'enseignement général et normal en école d'enseignement technique, c'est un travail très profond. Très profond parce que nous avons déjà commencé des ateliers pour réfléchir autour de la faisabilité de cette mesure-là. Et là également, j'entame ce qui concerne les subventions allouées aux écoles techniques. C'est vrai, il a raison. Jusque-là, les subventions que nous allouons sont limitées. Limitées dans ce sens-ci que les écoles techniques coûtent cher. Ça, c'est vrai. Vous savez, comme je l'ai dit, que l'État aujourd'hui est en train de reprendre petit à petit ses prérogatives pour financer les écoles. Et nous avons démarré, nous pensons que dans les jours à venir, chaque Congolais va payer ses impôts, on aura suffisamment d'argent qui permettra à ce que l'éducation soit financée. Monsieur Étienne l'a dit, oui. L'éducation, c'est le socle du développement, et nous pensons que si c'est chaque Congolais s'intéresse réellement à l'éducation, nous aurons les moyens pour financer justement ces socles du développement, de la reconstruction de notre pays. Et l'exemple a été donné, comme je l'ai dit, par la première dame, avec 5 écoles déjà, qui ont coûté ce qu'elles ont coûté. Mais il faut qu'on mette les moyens, surtout en ce qui concerne les écoles techniques. Et je crois que la loi aussi le dit, l'État doit subventionner les écoles, ça c'est normal.
On va revenir à vous pour la dernière intervention. Après avoir écouté Pervier qui est à Kalemi, Ingopa qui est à Kananga, Amour qui est à Lubumbashi, nous parlons des activités d'autofinancement à créer et développer au niveau des établissements d'enseignement national. Que pensez-vous de cela et l'impact sur le fonctionnement des établissements? Les points de vue sont très très les bienvenus dans cette émission. Vous avez été nombreux à intervenir depuis le début de cette émission. Je rappelle encore le numéro d'appel 081-890-4969.
Parole aux auditeurs.
Épervier, vous nous appelez des Kalemi dans le Katanga. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
On vous écoute. Vraiment, vous avez suivi les uns et les autres.
Allez-y, nous sommes très ravis de nous avoir dédié cette loi qui restait d'abord cachée dans les parlements auquel la population ne savait pas et toutes les chaînes de la République démocratique du Congo ne cherchaient pas à dédier cette loi. Mais moi, ma préoccupation réside sur, vous appelez l'entreprise en charge, est-il permis d'un établissement de créer un marché de fournitures scolaires ou une papeterie dans un enclos de l'école? C'est ça ma première question. Deuxième question, c'est pour bien se prendre dans l'entreprise en charge, est-il permis aussi de créer un restaurant ou un bistrot où les élèves peuvent s'en servir tout près de leur école? Parce que quand on parle d'entreprise en charge, on voit directement l'argent. Et ce que moi je crains beaucoup, c'est le chef d'établissement peut s'enrichir au détriment de ses élèves ou de ses enseignants-là. C'est ça ma préoccupation, monsieur le ministre.
Merci beaucoup, Épervier. Vous avez posé la question, celle de savoir si déjà la loi autorise-t-elle à une école d'organiser un marché de fournitures scolaires ou de papeterie dans l'enceinte de l'école. C'est une question que vous avez posée à notre invité. Mais c'est là aussi, c'est la même chose avec la restauration. Est-ce que déjà dans la loi, cela était-il permis avant? Et comment pour se protéger contre l'enrichissement? Là, ça a été déjà répondu il y a quelques minutes. Merci beaucoup, Épervier. Ingopa, vous êtes à Kananga, au Kasa Occidental. Bonjour.
Bonjour Pierre, bonjour aussi à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs des radios.
Rapidement, on vous écoute aussi.
Oui, merci. Je vais donner l'essentiel parce que les limites ne sont plus nombreuses. Vous savez, cette initiative, elle est bonne. Hein. Nous félicitons quand même notre Parlement de nous avoir donné cette initiative. Mais la loi n'était pas claire. Lorsqu'on a publié cette loi, mais elle n'est pas claire dans le sens que lorsque vous avez permis aux écoles de s'autofinancer et vous faites de créer des activités commerciales pour leur autofinancement. Mais vous savez, je dis que ça peut encore créer des problèmes. Disons par exemple, comme la loi n'était pas claire là-dessus, et par exemple une école qui va créer une salle de cinéma. Et vous verrez que à ce moment-là, bien sûr, il y aura des personnes qui vont entrer dans cette salle de cinéma pour voir les films et consorts. Mais aussi, les élèves seront aussi influencés. Et surtout si la salle de cinéma est à côté de l'école. Vous voyez, ça déjà c'est un impact négatif de ce côté-là parce que la loi n'a pas défini quelle sorte d'activité qu'il faut entreprendre pour s'autofinancer. Ça c'est la première préoccupation. La deuxième est que, bien sûr, c'est une bonne initiative parce que les élèves vont quand même avoir des notions quand même, hein, ils seront bien formés, surtout pour les écoles techniques. J'ai vu sur place à Kananga, il y a une école qui a ouvert, je ne sais pas, un centre informatique, hein, je peux dire un cybercafé comme ça. Mais il y a d'autres écoles qui n'ont pas de cyber, mais qui ont l'option commerciale informatique, qui quittent dans leur école pour aller dans cette école pour pratiquer quand même avec l'informatique. C'est une bonne chose, mais c'était mieux que la loi soit claire. Parce que n'importe quelle école perd
oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure,
Ingopa. Ça ne va pas aider. Ça ne va pas aider.
Voilà, Ingopa, c'est ce qu'on disait tout à l'heure au début de l'émission.
Je vais te une question, s'il vous plaît, Pierrot.
Oui, allez-y rapidement.
Je ne sais pas, l'activité commerciale qui va générer des intérêts, qui seront réellement des bénéficiaires directs? Est-ce les élèves, les enseignants ou soit les préfets? Je vais citer par cette question-là, merci.
Merci beaucoup Ingopa, mais je rappelle encore ce que nous avons dit tout à l'heure. La loi a posé, hein, c'est le principe, et l'autre alinéa parle des dispositions réglementaires qui vont être prises, hein, pour accompagner, pour déterminer effectivement quels sont ces types d'activités. Mais vous avez posé la question à notre invité, c'est de savoir qui sont les bénéficiaires directs, hein, des activités d'autofinancement, les préfets, les enseignants ou bien les élèves eux-mêmes. On va terminer cette émission pour les auditeurs avec vous à Amoury. Vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, c'est précisément à Kamina, je suis au Katanga.
Voilà, vous êtes à Kamina, dans la province du Katanga. Dans une minute et demie, on vous écoute, Amoury.
Merci beaucoup. Donc, je salue cette innovation de 1986 qui est renouvelée. Mais si j'ai bien suivi l'invité du jour, il a parlé sur donc, l'autofinancement, il a touché ce que sur les écoles techniques, pas sur les écoles professionnelles. Et voilà, il y a de ces écoles aussi professionnelles qui peuvent aussi ouvrir quoi leur autofinancement donc de ces écoles, mais ils doivent même cultiver, après avoir cultivé lors des récoltes, ils vendent leurs biens pour s'autofinancer à l'école. Mm-hmm. Mais cette question-là nous revient en esprit, soit en disant est-ce que l'invité ne pourra pas parler aussi des écoles professionnelles. Mais il existe toujours aussi les écoles techniques.
Merci beaucoup Amoury. Nous revenons à vous, Jovem Mugadi. Vous avez suivi les uns et les autres. Il y a des questions directes. Hein. Il y a notre ami Épervier qui a voulu savoir s'il est déjà permis au niveau de la loi qu'une école organise un marché de fournitures scolaires dans l'enceinte de l'école, des restaurations, des choses comme ça. Ingopa voudrait savoir qui peuvent être les bénéficiaires directs de ces activités d'autofinancement. Et Amoury, lui, s'inquiète. Vous avez beaucoup plus insisté sur les écoles techniques, mais pourquoi pas aussi les écoles professionnelles qui peuvent aussi organiser ces activités d'autofinancement rapidement pour terminer cette émission.
Oui, merci Pierrot. Je crois que dès le début, vous avez lu l'article 172.
Oui.
Qui, je crois que je vais répéter pour que les gens comprennent.
C'est aussi une émission de sensibilisation.
Oui,
aussi.
L'article 172, les établissements, les centres publics et privés agréés d'enseignement national peuvent créer et développer des activités d'autofinancement. Mmh. ces activités sont déterminées par voie réglementaire. Donc, quand nous parlons de ce, nous disons, nous lisons la loi, cet article, c'est clair que même les écoles techniques, aussi bien les centres professionnels, publics et privés, peuvent développer des activités d'autofinancement. Mmh. Et comme je l'ai dit dès le début, nous attendons que
la voie réglementaire qui doit déterminer
la mesure réglementaire voilà. intervienne pour dire comment ces quelles seront ces activités, comment elles seront organisées et qui en seraient les bénéficiaires. Moi, je crois qu'ici, le premier bénéficiaire, c'est l'école. Parce que le souci, c'est quoi? C'est permettre... Le bénéficiaire indirect, c'est l'école, mais le bénéficiaire direct, ce sont les élèves, ce sont les enseignants, ce sont les chefs d'établissement. Et je l'ai dit, pour éviter l'enrichissement illicite des chefs d'établissement, joignez-vous à eux, travaillez avec eux, sachez combien produit cette activité et gérez ensemble. Je crois que cela a été dit plusieurs fois. Il faut que tous les partenaires se mettent ensemble et surtout ce que nous demandons, c'est que les privés également viennent dans les écoles, non seulement pour aider les enfants à mieux faire leurs pratiques professionnelles, mais aussi, ils peuvent apporter aussi bien leurs outils, comme ils peuvent utiliser les outils qui sont à l'école pour aider les enfants à faire leurs pratiques professionnelles.
Et rapidement, parce qu'il y a notre ami qui a voulu savoir si déjà les écoles sont autorisées, depuis même la loi dans sa forme ancienne, à organiser des activités commerciales dans l'enceinte de l'école, comme vendre des produits de fourniture, tout ça.
Je crois que l'ancienne loi, nous l'avons dit, n'a pas été d'application. Mais il faut également faire attention avec les activités que vous allez développer. Ne développez pas des activités qui vont à l'encontre de l'enseignement. Il faut bien faire attention avec les activités qu'on va organiser pour éviter de créer des problèmes plutôt que de proposer des solutions.
Et en 10 secondes, qu'est-ce qu'on peut retenir en 10 secondes, un mot?
En 10 secondes, c'est que toutes les écoles ont la possibilité de s'autofinancer pour permettre l'accès des élèves à l'école, mais aussi permettre d'améliorer la qualité de notre système éducatif. Mais il faut que tout le monde soit à l'école.
Voilà, merci beaucoup, Jovem Mougali, d'avoir accepté notre invitation. Ce n'est pas la dernière émission autour de cette loi. Il y a beaucoup d'articles, beaucoup de choses. On pourra se retrouver aussi à la prochaine. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission. J.R. Lungembo, qui a assuré la coordination et la réalisation. Guy Manzangou, à la technique. Ben Kabamba, à la supervision. Nous vous disons tous merci. Au revoir. We'll be right back.